Bonjour, c'est Geoffrey. Vous écoutez le cinquième épisode du Diable était là. Précédemment, la classe de Joris rencontrait un nouvel élève au passé étrange, tandis que Bellonica était piégée dans un autre monde et Malkuhl soupçonnait son professeur d'être le Diable. Geoffrey. Lecture de la nouvelle de Leonardo, intitulée Chimichurri. L'équipe de l'émission argentine Teba Gustar était plutôt fière de recevoir le prodigieux réalisateur Marco Bartascha, car il venait de recevoir l'Oscar du meilleur film. Avant même qu'il n'entre sur le plateau, on montra la bande-annonce de son long métrage. L'héroïne était une femme enceinte, qui faisait face au diable pour lui demander de lui rendre l'âme de son défunt et premier fils pour honorer sa mémoire. Ce n'était pas un projet à grand budget, alors Bartascha renonça aux effets spéciaux, aux immenses flammes perçant les montagnes et à son passage préféré, où la mère devait faire un voyage éprouvant vers le centre des enfers. Non, l'héroïne s'affrontait frontalement au malin dans sa forme de bouc, dans le désert du Monte, perdue entre les roches de grès rouge. La majeure partie de l'extrait était constituée d'un plan serré sur le visage de la négociante dont l'œil gauche se cachait sous une longue frange noire. Sur le plateau, le cuisinier, qui coupait le persil, se mit à imiter le violon qu'il entendait et qu'il reconnaissait comme le printemps de Vivaldi. Quand enfin le visionnage cessa, Bartascha était déjà installé sur le fauteuil gris bleu. Face à Rodrigo Sbaraglia, le présentateur de l'émission matinale Teba Gustar. Sa première question était de demander au réalisateur où se trouvait l'Oscar et ce dernier plaisanta en disant qu'il fut obligé de le donner au diable. Tout le monde ria. Rodrigo exagéra sa surprise, comme les téléspectateurs lui faisaient souvent remarquer sur les réseaux sociaux. Puis son expression se raidit pour traiter des sujets plus sérieux. L'animateur prit son stylo noir, se tapota le front avec le bouchon et interrogea son invité sur les nombreux morts qui avaient affecté le tournage du film. Une figurante de 30 ans avait succombé à une crise cardiaque, un cascadeur s'était brisé le cou et le chien acteur avait été empoisonné accidentellement. Nulle personne n'avait vraiment eu des réponses satisfaisantes sur l'origine de cette malédiction. Mais tous les médias s'accordaient sur l'idée que Cerrando el Inferno allait marquer l'histoire du cinéma grâce à son succès critique, mais aussi à cause de ses tragédies mortelles. Le présentateur météo était peut-être le seul à ne pas être subjugué par le sensationnalisme de cette histoire. Il devait parler dans 10 minutes. Et durant son attente, il examinait les signes d'empathie de l'invité. La presse argentine et internationale était assez choquée par l'absence d'émotion de Bartascha quand on l'interrogeait sur ses décès. Rodrigo aurait pu passer à un autre sujet, axer son entrevue sur la fierté nationale qu'un film argentin obtienne l'Oscar du meilleur film, et peut-être, à l'avenir, une palme d'or. Hélas, les morts et les malédictions intéressaient plus les téléspectateurs. Enfin, il avait atteint la 13e fois. 13 fois. Bartascha avait fini par compter pour savoir jusqu'à quand il pouvait résister à la colère. Sans ménagement, le présentateur lui reprocha son absence d'empathie, de parler de ses disparitions sans profondeur, comme si ça n'avait été que des petites histoires qui faisaient peur. À cela, le réalisateur expliqua tant bien que mal que les nombreux entretiens avaient séché ses larmes et que son psychologue le disait en état de sidération. Rodrigo ne le croyait pas, mais il ne pouvait pas trop creuser parce que Bartascha venait d'avouer qu'il était en thérapie. Le présentateur météo était moins crédule et tapait du pied nerveusement sur le talon comme un cheval prêt à fuir. Rodrigo continua avec des questions plus ciblées sur l'aspect sociologique de Cerrando el Inferno. Était-ce une critique de l'évangélisme? Puis Batasha révéla que sa partie préférée était la chanson interprétée par une sociétaire du théâtre Colonne. Certains téléspectateurs avaient dû être étonnés par une déclaration anonyme, car hors caméra, le présentateur météo se mit à poser des questions à Batasha sur sa santé mentale, d'une manière si crue que le régisseur son coupa son micro. Dans les coulisses, un producteur lui ordonna de se calmer s'il voulait garder son boulot. Pour apaiser les esprits et ne pas brusquer Batasha encore plus longtemps, Rodrigo l'accompagna jusqu'à la cuisine où un chef préparait une sauce nationale, le chimichurri. Constituée en majorité de persil, elle était traditionnellement utilisée pour assaisonner les viandes cuites au barbecue et l'invité était sur le point de découvrir la meilleure recette. Mais dès que le cuistot s'exprima, il fut victime d'une terrible quinte de toux. Quand enfin il reprit son souffle, la sauce se mit à gicler et tout le monde ria. On en riait, certes, mais la stupeur était palpable. Batasha demanda si c'était une blague ou une caméra cachée. Or, les brûlures soudaines aux mains du cuisinier faisaient envisager le pire. Rodrigo plaisanta en disant que le chimichurri était trop picante. Mais autour, l'équipe technique ne rigolait pas. Gentiment, l'invité nettoya les mains du chef. Toutefois, ce dernier faisait toujours dans l'originalité. Au contact du torchon, il se mit à sauter, tel une puce. Il ne put s'arrêter alors que ses collègues riaient nerveusement tout en étant confus. Rodrigo le laissa faire, comme son supérieur lui ordonnait à l'oreillette, conscient que ça allait faire augmenter l'audimat. Une personne vint laver le sol et aussitôt le fou du moment cessa de bondir. C'était alors que la technicienne se mit à agir à son tour d'une manière insensée. Elle se déshabilla pour apparaître en sous-vêtements, puis dansa un tango avec un partenaire fantôme. Batasha recula, conscient qu'il était dans un cirque d'un autre genre. À côté de lui, lui tenant la main pour le rassurer, Rodrigo comprit que la sauce pouvait être l'arme du crime. En plaisantant, il proposa à son invité de goûter le chimichurri et le réalisateur refusa. Alors, avec une voix très grave, il proféra des menaces sur sa carrière et répéta l'ordre. Batasha ne pouvait pas avoir peur d'un simple présentateur télé. Mais finalement, si. Quelque chose dans l'expression faciale de l'animateur l'avait alerté. L'invité s'agenouilla à toute vitesse, baisa les mains de Rodrigo en lui demandant si c'était sa dernière épreuve et il ne lui répondit pas. Soudain, la femme glissa en dansant et un grand craquement se fit entendre. Tous coururent vers elle et à cet instant, Batasha versa une larme avant même que les autres ne comprennent que la mort avait récupéré une âme. L'animateur eut les yeux totalement noirs quand il se mit à compter à partir de 1. Le réalisateur primé se résigna, 2, et fit le geste désiré, 3, pointant son doigt dans la sauce, 4, et la lécha en tremblant, 5. Le cinéaste courba les chines, 6, et un rire ténébreux résonna dans le plateau. Batasha pleura comme jamais, pris d'épuisement, alors que Rodrigo semblait avoir complètement oublié ce qu'il venait de demander à son invité, et il rejoignit le groupe qui entourait le corps de leurs collègues. C'était un moment triste, mais on oublia peu à peu toutes ces tragédies. Car l'histoire du cinéma allait retenir que Cerrando el Infierno fut le premier film argentin à obtenir un Oscar, un Goya, un Ours d'Or et une Palme d'Or.
Vous êtes le diable! S'exclama Michael en s'adressant à Joris. Tous furent étonnés, surtout le professeur.
Quoi?
S'inquiéta ce dernier. J'espère ne pas être le diable.
Torturer les gens, ce n'est pas mon point fort. Vous avez fait ce truc avec vos doigts et vous avez la même voix que...
Michael bégayait,
souffrant d'une confusion mentale. Les autres se moquaient assez volontairement de lui alors que Guillaume manquait de s'énerver qu'on raille le quadragénaire.
Michael, tu m'inquiètes un peu. Tu ne veux pas qu'on appelle un taxi pour que tu rentres chez toi, pour te reposer ?
Demanda Joris.
Il n'hésitait pas vraiment. À ce moment, Michael entendait à nouveau du murmure qui lui demandait cette fois-ci
« Dis-moi qui m'a invoqué pour m'enfermer ?»«
Je ne sais pas. Je ne sais pas. » déclara-t-il, et sa réponse fut comprise comme celle attendue par Joris.
« Bien, tu nous diras quand tu sauras. »
« Norman, donne-nous ton avis sur Chimichurri. »«
Je n'ai pas tout compris. »«
T'es bête ou quoi ?» s'énerva l'auteur de l'histoire.
« C'est pour t'embêter !» s'amusa Norma. « Moi aussi, je sais jouer à la comédie. »
Ruth se mit à applaudir avec joie.
« Pour de vrai, ce que je peux te dire, c'est que c'est surprenant. Je ne savais pas ce qu'il allait arriver du début à la fin. Maintenant, c'est une histoire que j'adore. »«
Merci, je suis content que ça te plaise. » s'énorgueillit Leonardo.
Je ne veux pas être méchant, s'interposa Joris, mais j'ai l'impression que tu ne l'as pas lu.
Oui, je l'ai lu,
se défendit Norma.
Si, je l'ai lu, rectifia le français.
Donne-nous alors une analyse de l'histoire, un peu plus développée.
Eh bien, je trouve intéressant que le réalisateur se nomme Batacha, ou Bataya plutôt. Bataya, Bataille
dit-elle en gicotant les doigts de sa main droite.
Je pensais que le réalisateur vivait une grande bataille depuis qu'il a fait son film. Il doit batailler pour paraître normal, alors que tout le monde croit que c'est un meurtrier. J'imagine qu'on pense qu'il a tué ou participé à la mort des autres personnes lors de son film. Mais c'est vrai que je ne comprends pas totalement la fin. Bataya a conclu un pacte avant les morts pour avoir tous ses prix.
J'avais écrit la vraie origine du pacte, mais c'était trop long et Joris veut qu'on reste mystérieux. Alors j'ai coupé cette partie pour garder les plus importantes et les plus éprouvantes, expliqua Leonardo avec sobriété.
C'est ton choix, réagit Norma. Je voulais rajouter une chose, une impression. Je suis étonné qu'on ait réussi à écrire ces histoires d'horreur.
Je ne pensais pas avoir des idées très sombres, grimaçait-elle.
Ça a été compliqué pour moi aussi, dit Ruth. Un ami m'a aidé beaucoup.
C'est ton co-auteur.
Moi, je suis content du résultat, vraiment. Il nous reste encore une nouvelle venue de Guadalajara,
annonça Joris.
J'aimerais raconter mon histoire avant,
interposa Guillaume.
Je ne serai pas long, Véronica.
Tu es d'accord, Véronica?
Questionna le prof en sentant qu'elle n'était pas en grande forme que maintenant.
La Mexicaine fit un oui de la tête, mais d'une manière assez lente.
« Malcolm et toi, vous semblez très bizarres ce soir. Vous avez attrapé un rhume ou vous avez mangé la même chose, des bonbons ?»«
Ils ont couché avec la même personne ?»
s'amusa Leonardo.
Le chat avait cessé de caresser les jambes des deux victimes de l'étrange sort, et à cet instant, Malcolm se leva et ordonna.
« À fête comme la abuela !»«
Faites comme la grand-mère !» traduisit Norma, abasourdie.
Puis Michael se rassit et le chat se mit sur ses genoux pour le calmer.
On va accélérer la séance. Quelqu'un sait où vivent nos amis ?
Demanda Joris.
Oui, répondit Norma. J'ai mangé chez les deux.
Vous me faites un peu peur, avoua-t-elle en les regardant avec une profonde peine.
Les autres partageaient son sentiment et tous se sentaient désarmés. Alors que Guillaume désirait raconter son histoire. Il n'était pas insensible, mais...
Guillaume se leva et commença son histoire.
« Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je suis là, mais je sens qu'avec vous, je pourrais être moi-même. Quelque chose de lourd me pèse. Personne ne pourrait comprendre mes gestes.
Peut-être que toi, Ruth, tu pourrais partager ma colère. J'ai parfois l'impression d'être le diable. »
Je vous laisserai juste après, puis vous m'oublierez.
Oui, vous allez m'oublier.
Quand c'est arrivé, je venais de quitter mon petit copain, mon premier amour, mon bien-aimé. Pour m'évader, oublier,
imaginé que le passé n'était qu'un synonyme de rêver. Je me suis rendu dans ce château où personne ne voulait aller, parce qu'il paraissait hanté. Pourtant, c'était un beau petit château, niché sur une colline. J'ai franchi le portail, puis l'escalier. Peut-être que je m'aventurais avec l'espoir de rencontrer des fantômes qui me hanteraient, m'empoisonneraient, pour que je vive une douleur inhumaine qui m'anéantirait. Mais en haut, ce n'était que splendeur. J'ai affronté un jardin de statues face à des visages d'une grande beauté, plus d'hommes que de femmes. Ils semblaient réels, façonnés par un artiste aux mains d'or. J'étais troublé par leurs cris, leurs larmes et leur rage. Quand j'observais un beau visage, je fus surpris par une respiration sur mon cou. Vous ne me croirez pas, c'était le souffle d'un démon. Il avait une silhouette désirable, une force magnifique et un visage d'une grande douceur. La blancheur de sa peau paraissait d'albâtre. Une sculpture réelle avec des traits bestiaux. Yeux de bœuf, cornes de bouc, museau de chien. Seule sa petite bouche fine avec une cicatrice qui lui fendait les lèvres lui conférait une humanité sincère. Même s'il avait la figure d'un habitant des enfers, je le trouvais désirable. D'une extrême fragilité, d'une candeur parfaite. Je voyais dans son regard qu'il m'aimait déjà. Son souffle était brusque, mais doux. Ses mains me frôlaient et j'ai dansé pour qu'on observe nos silhouettes. Nos pas dessinaient la symétrie d'une cadence parfaite, mais moi, je ne voyais en lui que de la magie en action. Mon cœur d'humain n'avait pas la force de mes pensées déchirées. Il lui manquait la banalité, sa singularité aveuglée, sa sensibilité profanée. Flèche d'or dans son cœur, le plomb dans le mien. Si j'avais écrit un poème, il serait brûlé dans les flammes d'un feu de forêt. Un crime pour se réjouir de voir les couleurs rougeoyantes dévorer la beauté. Notre danse, c'est ça, quand je vis la merveille de toutes les merveilles. Alors qu'on frôlait les murs du château, je vis avec les larmes, le cœur tremblant, des roses d'argent. La lune avait l'air d'avoir peint les pétales avec son œil brillant. Je les voulais. Impossible qu'une seule âme puisse les croire siennes. Pourtant, la créature disait les aimer plus que tout. Mon cœur s'emballa plus que jamais. Qui pouvait oser chérir ce trésor astral? Ces roses étaient mes roses. Quiconque les regarderait avec désir craindrait mon courroux. Ma rage effraya mon nouvel ennemi. Il pleurait à l'idée de perdre ses fleurs merveilleuses. Peu importe son idolâtrie, il ne pouvait prétendre être le gardien de mon trésor. Soudain, les statues cessèrent de s'arrêter dans le temps. Vivantes, elles étaient vivantes. Je venais de les libérer de leur sort funeste pour nourrir ma vengeance. Je savais que le démon les avait transformées en marbre. J'étais le seul à ne pas avoir succombé à son sort, le seul qui pouvait aimer sans craindre que je ne perde mon humanité. Mais vous penserez que mon cœur est celui du diable en apprenant que la pauvre créature eut le cœur arraché, les yeux percés, les cornes broyées et le museau atrophié. Elles sont mes roses. Mes roses. Le discours de Guillaume avait choqué la classe. Mais comme il l'avait prévenu, le nouveau disparut. Et tout le monde semblait avoir oublié qu'il avait existé. Norma était étonnée par la présence de larmes sur ses joues. Ruth ignorait pourquoi elle avait griffonné un cœur sur sa feuille. Et Leonardo se demandait qui il traitait de connard. L'Espagnol continua de griffonner et se mit à réfléchir. Elle se tapota le front, nerveuse. Puis feuilleta le texte de Veronica avec une grande détermination. Dans le prochain épisode, la nouvelle de Veronica révélera ce que le diable recherche. Les élèves et Joris vont-ils réussir à contrer ses plans ?